Vous êtes sur RTL.
On est étonné. Quels sont vos arguments ?
Ben, mes arguments, c'est que moi, je suis de la génération hépatite B associée à la sclérose en plaques. J'ai eu des collègues qui ont eu leur vie ruinée à cause d'un vaccin qu'on a voulu faire trop vite, trop rapide et à trop grande échelle. Et aujourd'hui, je pense que je ne dois pas être la seule dans le métier, mais on a l'impression que les choses recommencent. Et on se dit, à court terme, c'est pas ce qui me dérange. Les effets à court terme, on voit bien qu'à court terme, les effets secondaires, ils sont pas... y en a certains qui sont impressionnants, mais je vous dirais pas moins que quelqu'un qui prendrait du Doliprane, par exemple, ou d'autres médicaments pour d'autres choses. Mais à long terme, on ne sait rien. Et on est en train de vouloir déjà vacciner des enfants. On ne sait pas si mon fils qui a 13 ans, si dans 5 ans, il me fait, je ne sais pas moi, une sclérose en plaques au hasard. Je vais lui gâcher sa vie à 18 ans, tout le reste de sa vie, lui écourter sa vie pour un vaccin où on n'a pas de...
Virginie, moi, je suis, vous vous doutez bien, je ne suis évidemment pas un spécialiste. Ce que vous dites est contesté. C'est-à-dire qu'aucun vaccin n'a provoqué une sclérose en plaques.
Ça fait juste... Ça fait pas encore 5 ans, ça fait même pas 6 mois.
Non, mais je ne parle pas même... vous parlez d'autres vaccins, vous dites...
L'hépatite B ?
Non. C'est contesté. Ce que vous dites est contesté. C'est-à-dire que ça fait 6 mois qu'on a ce sujet à l'antenne. Tous les médecins scientifiques, Axel Kahn, qui sont intervenus, ont contesté ce que vous dites. Ce que vous dites n'est pas, scientifiquement prouvé. Et ils ont tous contesté. Donc on est en fait dans des sujets... Alors je ne veux pas employer le mot, parce que ce mot aujourd'hui, il est mis à toutes les sauces. Mais en tout cas... Ce que vous dites, que des vaccins contre l'hépatite B auraient provoqué de la sclérose en plaques, est contesté par le monde scientifique. D'ailleurs, c'est même pas contesté, ils disent ça n'a pas existé, ce n'est pas vrai. C'est,
Oui, comme voilà. Le nuage de Tchernobyl qui n'est jamais passé au-dessus de la France parce qu'il n'y avait pas de passeport.
C'est pour ça que c'est très difficile d'entrer dans ces sujets, parce que moi, je ne peux pas vous répondre.
En fait, sans parler de sclérose en plaques ou autre, le risque zéro n'existe pas. Et quand on injecte dans le corps un vaccin, on injecte quelque chose...
Alors ça, ce que vous dites est vrai pour le coup. C'est-à-dire que le risque zéro... Mais ça, c'est vrai pour l'opération de l'appendicite. C'est vrai, pour à partir du moment où vous faites une intervention chirurgicale...
Sur les opérations de l'appendicite, mon chirurgien, il a plus l'habitude de faire des opérations de l'appendicite. Il en fait tous les jours, voire 10 ou 15 par jour. Les vaccins contre le Covid qui sont sortis en moins d'un an, où on se demande comment ils ont été faits, les tests...
Ils ont été faits, mais Virginie, pardonnez-moi, on sait comment ont été faits les tests. C'est-à-dire qu'on pourrait reprendre chacune de vos phrases et la contester. On sait comment les tests sont faits. Donc, que vous ne vouliez pas, c'est votre droit. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Mais ne justifiez pas votre non-volonté de faire un vaccin avec des arguments qui n'existent pas. On sait comment ont été faits les tests. Si vous dites qu'il n'y a pas de recul sur 5 ans, vous avez raison.
Je suis contre le papillomavirus, je ne suis pas contre le vaccin. Ce n'est pas un vaccin obligatoire pour les garçons, d'ailleurs. Et ce n'est même pas un vaccin obligatoire pour les filles. Mais j'ai considéré que mon fils, un jour, il fréquentera... Et pour protéger les filles qu'il fréquentera, j'ai fait vacciner mon fils contre le papillomavirus. Donc je ne suis pas contre les vaccins. Celui-là, il me paraît plutôt inquiétant. En plus, c'est un vaccin qui va empêcher de faire des formes graves, d'après tout ce qu'on peut comprendre. À partir du moment où les personnes âgées sont vaccinées, où les personnes fragiles sont vaccinées, je ne vois pas pourquoi il faudrait obliger les autres à se faire vacciner.
Bon, Virginie, si en tout cas c'était obligatoire, qu'est-ce que vous feriez, vous ?
Je change de métier. Ou alors on oblige tout le monde.
Ben, c'est clair.
Ou alors on oblige tout le monde, ou alors on n'oblige personne.
Ben, ça, je comprends mal ce raisonnement, mais...
J'ai envie de dire, c'est soit tout le monde est dans le même bateau avec ce vaccin...
Mais en France, vous avez 40 millions de gens qui sont vaccinés ? De quoi on parle, Virginie ? Il y a 40 millions de gens, tout Israël est vacciné, le monde entier est vacciné.
Donc, il y a beaucoup de sceptiques.
Mais évidemment qu'il y a beaucoup de sceptiques. Mais vous dites on n'a pas de recul, vous avez raison, sur 5 ans, on n'a pas de recul par définition. Mais enfin, voilà un vaccin qui est inoculé depuis quasiment un an. Le nombre de personnes qui sont vaccinées dans le monde doit être au-delà de 100 millions aujourd'hui ou de 150 millions. Je ne sais pas les chiffres exacts, d'ailleurs, le nombre de personnes vaccinées dans le monde à l'heure à laquelle je vous parle. Manifestement, des effets secondaires, il y en a. des catastrophes, il y en a, comme sur tout vaccin, comme sur tout médicament. C'est-à-dire que vous prenez une aspirine, vous pouvez mourir dans la seconde. Vous faites
c'est
une
exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ça. Mais c'est que sur les effets à court terme, oui. Mais après, à long terme, on ne sait rien.
Mais donc, on arrête tout progrès. Par définition, tout protocole dans un hôpital, on l'arrête parce qu'on n'a pas de recul. On arrête tout. Moi, je veux bien entendre ce que vous dites, mais par définition, un médicament sur lequel on n'a pas de recul, on n'a pas de recul de 10 ans. En fait, on ne met jamais rien en service, puisque par définition, il faut mettre les choses en service pour avoir du recul. Donc, on fait comment avec votre système ?
Moi, je vois qu'il y a certains hommes politiques qui ont demandé à avoir les rapports d'expertise des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent et qui vendent leurs vaccins. Il y a un certain nombre de ces rapports qui n'ont pas été délivrés. Pourquoi ? Moi, il y a tellement de pourquoi autour de
mais il n'y en a pas de pourquoi. Je veux dire, quel homme politique ?
Oh, je n'ai pas noté le nom, excusez-moi. Il y en a tellement des hommes politiques.
Mais je suis d'accord, là, il y a un moment où tu peux faire confiance, effectivement, parce que si on ne te fait jamais confiance... avec, évidemment, il faut garder le regard, la critique possible. Bien sûr qu'il faut être, et vous avez raison, d'être suspicieuse. Il ne faut pas tout prendre comme argent comptant, bien évidemment. Mais je vois le monde entier vacciné. Donc si, effectivement, il y avait des effets terribles, bah, depuis un an, ça se saurait. Alors effectivement, dans 5 ans, je ne sais pas. Dans 5 ans, je ne sais pas. Mais comme ce vaccin, manifestement, c'est ce qu'expliquent les uns et les autres, bah, il se dissout, manifestement, dans je ne sais pas si c'est le bon terme, d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas très bon en médecine, pour tout vous dire.
Disons qu'il perd son efficacité au bout d'un certain temps.
Oui, mais ça, c'est le principe d'un vaccin. Mais en tout cas, et l'infirmière... Alors, moi, je retiens aussi la question que je vous ai posée, c'est que si on vous oblige, vous quittez le métier. Pour vous, c'est vraiment... Mais dans 5 ans, par exemple, si tout va bien, vous vous faites vacciner ? C'est quoi le recul ? À partir de quel moment vous considérez que ce vaccin, il est acceptable pour vous ?
Je dirais au moins 3 ans.
3 ans.
Donc il reste encore 2 ans.
D'accord. Et si donc dans 3 ans...
Disons que pour moi, pour les recherches, c'est un an au minimum de recherche, un an des tests sur les souris, et un an de tests à grande échelle sur les humains. Donc ça fait 3 ans. Pour moi, moins de 3 ans...
Bon, bah, écoutez, en tout cas, Rachida va être là d'ailleurs. Et comme Rachida, elle est infirmière anesthésiste, elle va pouvoir mener la discussion avec vous. Et puis, pardonnez-moi, Virginie, de mener cette discussion avec vous, parce que moi-même, je suis pas très compétent, hein, bien évidemment, pour parler de médecine. C'est entendu. Là, je parle non, comme.
Après, moi, je reste une infirmière. Hein. Après,
oui, non, mais vous êtes plus compétente que moi pour. Vous êtes plus compétente que moi pour parler médecine que moi, qui n'ai aucune formation. Mais Je raisonne simplement avec les éléments que je vous ai donnés. Effectivement, je vois que tout le monde est vacciné dans le monde entier. Virginie, reste avec nous. Rachida va pouvoir essayer de lui parler. Pourquoi pas de la convaincre ? On ne sait pas. 13h11. Bonjour, monsieur Caradoni.
Bonjour à tous.
C'est vendredi et vendredi, il y aura une petite surprise.
Bien sûr, toujours.
Qui ne sera pas une surprise, puisque nous savons ce que ce sera.
Ce sera alors le programme d'On défait le monde avec Cyprien, certainement. Et puis on écoutera Monaco, 28 degrés.
Peut-être, mais on aura Cyprien Signy également qui viendra nous voir, je l'espère.
Absolument, c'est ce que je viens de dire, je crois.
À tout à l'heure.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et bonjour à Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question du jour et celle qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé hier chez nos confrères de BFM un appel solennel à celles et ceux qui travaillent en EHPAD et qui ne sont pas encore vaccinés.
Les soignants en ville, en secteur libéral, on est à 85% de couverture vaccinale. Ce qui est pas mal. En EHPAD, on est à 50%. Or, en EHPAD, c'est là qu'on trouve les personnes les plus fragiles. Ça n'est pas justifiable. Et d'ici la fin de l'été, si ça ne devait pas s'améliorer, oui, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale pour ces publics particuliers.
Mais cette obligation vaccinale peut-elle être contre-productive ? Le docteur Gaël Durel, président de l'Association nationale des médecins coordonnateurs en EHPAD, était l'invité de RTL ce matin avec Yves Calvi.
Le risque donc de rendre obligatoire et d'avoir des personnes qui ne viendraient pas travailler, qui se mettraient en retrait, qui donc ne pourraient pas travailler en EHPAD et qui partirait travailler dans d'autres secteurs. Donc ce serait d'affaiblir les EHPAD. Donc il faut être aussi prudent par rapport à cela.
Le vaccin devrait être obligatoire pour tout le personnel soignant, demande Caroline sur la page Facebook de l'émission. Ils doivent montrer l'exemple. C'est incompréhensible, rajoute Muriel, de voir autant de refus. Ils ont vu les dégâts que pouvait faire ce Covid-19. Ce sont des inconscients pour Joël. S'ils ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils changent de métier. Mais de quoi je me mêle, répond Eric. Libre à eux de décider. Le gouvernement n'a pas à l'imposer. Vive la liberté en France, conclut Bruno sur nos réseaux sociaux.
À tout à l'heure, Laurent. Rachida est là. Bonjour, Rachida.
Oui, bonjour, Pascal.
Et Virginie est restée parce que vous aviez envie d'échanger avec Virginie. Virginie est infirmière libérale à Marseille. Vous êtes infirmière anesthésiste en Seine-et-Marne. Rachida, c'est à vous.
Ben écoutez, moi j'ai pris la radio en cours, là, voilà. En fait, moi je suis déjà intervenue plusieurs fois chez vous, et moi je suis pour que tous les soignants se fassent vacciner. Parce que quand on choisit cette profession, dès le départ, on sait que c'est une profession où il y a plein de vaccins qu'on doit faire. Donc moi je trouve ça pas normal qu'on se fasse pas vacciner. Si les gens ne veulent pas se faire vacciner, eh ben tant pis pour eux, ben, ils vont ailleurs, ils changent de métier. Les EHPAD, ce sont des gens fragiles, âgés. Moi, si mon père était dans un EHPAD, je refuserais que le personnel non vacciné s'occupe de lui. C'est clair et net. Et d'autre part, Virginie, j'ai pris en cours tout à l'heure, il ne faut pas dire que les vaccins provoquent des maladies, des scléroses en plaques. Ce n'est pas le sujet du jour, mais il ne faut pas tout mélanger. Hein. Alors, on est en France, on est un pays, on est des privilégiés, on peut se faire vacciner, et là, on chipote. Il faut se faire vacciner. Sinon, on va retomber sur une quatrième vague. Et moi, qui étais en réanimation avec les Covid, j'ai pas envie de recommencer. Hein. Donc, personnellement, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Voilà.
Virginie peut vous répondre et entamer le dialogue, peut-être.
Bah, répondre. Moi, je force personne à ne pas se faire vacciner. Alors, je vois pas pourquoi je ne serais pas maîtresse de mon corps, puisque mon corps m'appartient encore. Et depuis ma naissance et jusqu'à ma mort. Et je vois pas pourquoi on m'obligerait à mettre un produit auquel je n'ai pas encore confiance que dans mon organisme. Par contre, attention, du fait de mon métier, je ne dis, et il est hors de question que j'aille dire à mes patients, attention, ne vous faites pas vacciner, ce vaccin est dangereux. Je n'ai jamais dit ça. Je ne le dis jamais à mes patients.
C'est non, mais vous pouvez quand même les contaminer. Vous êtes,
oui,
vous êtes à risque.
Virginie, vous êtes à risque quand même. Vous côtoyez des patients.
Ils ont voulu se faire vacciner, mes patients âgés. J'ai que des patients âgés. Ils sont tous vaccinés. À partir du moment où eux, ils sont vaccinés, je ne crains pas de leur donner de forme grave.
Non, mais d'accord, je ne remets pas en fait. Je suis sûre que vous ne dites pas à vos patients de ne pas vous faire vacciner. Mais Virginie, ce vaccin, il a été fait rapidement. Pourquoi ? Parce que plein de gens, toutes des équipes de recherche, des grands chercheurs se sont mobilisés. Ils ont mis toutes leurs forces ensemble en un an. Et ils travaillaient déjà sur ce vaccin ARN, sur un autre système de vaccin. Et voilà, il faut faire confiance, Virginie, sinon on ne s'en sortira pas. Il faut arrêter de dire qu'il faut 3 ans pour mettre un vaccin. Les technologies sont avancées. Regardez en Israël, regardez dans tous les autres pays. Pourquoi est-ce qu'on est réfractaire comme ça en France ? Moi, je ne comprends pas. On est des enfants gâtés. Virginie, nous exerçons un métier difficile, à risque. Quand on a choisi cette profession, on sait qu'il y a des vaccins obligatoires pour exercer cette profession. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner contre l'hépatite B. Bah, du coup, bah, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Mais Virginie, franchement, réfléchissez. Il faut changer d'avis. Il faut se faire vacciner. Moi, ma fille, samedi, elle va se faire vacciner. Elle a 16 ans. Voilà. Il faut rester tous soudés et unis et combattre ce Covid. Donc, il faut qu'on se fasse vacciner, Virginie. Vraiment. Est-ce que Virginie, vous avez côtoyé ? Je pense que vous avez côtoyé des patients Covid, mais moi,
non,
j'étais en réanimation.
J'ai côtoyé, je suis toute seule sur ma tournée. Et justement, sur ma tournée, je n'ai pas pris de patients Covid.
D'accord, Virginie.
Parce que
mais
je n'ai pas la possibilité
d'accord.
de me mettre en arrêt
d'accord.
si jamais.
Je comprends, mais je connais. Non, mais je comprends, je connais cette profession. Mais Virginie, je peux vous dire qu'on était dans un stress effroyable, la troisième vague. Je vous jure, il y a des collègues à moi qui pleuraient en allant. En réanimation, on a eu plein de femmes enceintes, Covid. La dernière vague, c'est plein de femmes enceintes, Covid touchées. Donc, Virginie, il ne faut pas que ça recommence. Il faut qu'on se fasse vacciner pour soigner correctement les gens et ne pas contaminer les autres. Vraiment, Virginie, vous êtes infirmière libérale, vous allez dans plein de maisons, vous voyez plein de patients tous les jours. Il faut vous vacciner, Virginie. Je ne comprends pas, Virginie, que vous soyez aussi réfractaire. Franchement, je ne comprends pas.
Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on nous oblige et qu'on nous force. Et mais qu'on non, demande non. à des gens de nous obliger et de nous forcer. Mais et non, mes corps est mon corps, et encore une fois, oui. J'ai pas envie de mettre un produit comme ça dans mon corps. J'ai beau être infirmière, mais je suis pas... j'ai pas envie, voilà. Maintenant, mon problème à moi. Et après, je peux avoir demandé à d'autres, je suis pas la seule. Donc, je vais pas culpabiliser parce qu'il y a quelqu'un, je vais vous dire, alors, on oblige les infirmières à se vacciner. OK. Alors, moi, j'aimerais aussi qu'on oblige les pompiers, hein, tous les pompiers, parce qu'ils vont chez les gens aussi, qu'on oblige toutes les associations de personnes de soins, de personnes à domicile, celles qui vont faire le ménage, le repassage, le repas, celles qui vont faire les courses. Tout cela, il faut les vacciner aussi obligatoires. Les policiers, parce que les policiers, ils vont chez les gens aussi. Donc, il faut tous les vacciner obligatoires. Ils sont vaccinés toutes ces professions-là, obligatoires. Les éboueurs, parce que les éboueurs, hein, ils passent tout machin, il faut les vacciner obligatoires. Le facteur, il faut le vacciner obligatoire. Alors moi, c'est ça le fait. C'est de dire, il faut vacciner obligatoire les soignants. Non, il faut vacciner obligatoire toutes les professions qui ont un contact avec l'humain.
Oui, mais Virginie, nous sommes des professionnels de santé. Ce n'est pas la même chose. On côtoie des patients, on doit donner l'exemple. Écoutez, quand on a une charte, la charte du soignant, votre corps, qu'est-ce qu'on va... Vous avez fait votre vaccin, Virginie? Vous avez fait le tétanos? Vous avez fait l'hépatite B? Vous avez tout fait?
Ah bah l'hépatite B, il n'y a pas eu le choix, on me l'a fait trois fois le vaccin de l'hépatite B, je n'ai pas créé d'immunité. Et je n'ai même pas fait d'immunité, madame.
Oui, d'accord, écoute, mais Virginie, le problème c'est pas ça. Et par exemple, lorsque vous allez chez des patients, est-ce que vous leur dites que vous n'êtes pas vacciné? Essayez, dites-leur je ne suis pas vacciné.
Eh bien, Virginie répondra à cette question. Virginie répondra à cette question après la pause. Vous avez remarqué que je ne parle plus. Rachida est une merveilleuse meneuse de revue, si j'ose dire, pour les auditeurs ont la parole. C'est bien quand les auditeurs échangent entre eux. On est au-delà du concept de l'émission, là. Il n'y a plus que les auditeurs qui ont la parole, et c'est bien, finalement, Grégory, d'écouter les arguments des uns et des autres. Il est 13h22, nous sommes le vendredi 18 juin. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors Rachida, vous allez reposer la question que vous posiez à l'instant à Virginie et puis après, effectivement, on écoutera d'autres auditeurs ou auditrices. Rachida, reposez la question.
Oui, Virginie, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà demandé à vos patients, essayez de demander à vos patients s'ils accepteraient que vous continuez à les soigner en sachant que vous n'êtes pas vacciné.
Mais c'est déjà fait. J'ai même des patients qui refusent de se vacciner. Pas parce que je leur ai dit, je leur ai jamais rien dit, hein, encore une fois.
Non,
je ne me permets pas d'interférer dans la décision des patients à ce niveau-là. Ce n'est pas mon rôle. Et en plus, je considère que parce qu'ils sont âgés, pour eux, ça se justifie.
Bon, donc, en tout cas, vous avez répondu à la question et vous leur avez parfois proposé. Merci beaucoup,
voilà.
Rachida.
Vous leur avez demandé, voilà.
Rachida, on a reconnu votre énergie et puis votre force. Oui. Alors, le principe, il est déjà 13h25 et c'est vrai qu'on n'a pas écouté beaucoup d'auditeurs parce que c'était intéressant en même temps votre dialogue. Donc, je vous propose peut-être d'écouter Fabienne parce que Fabienne, elle est également infirmière et le moins qu'on puisse dire, c'est que les propos de Virginie font réagir et notamment le corps médical. Donc, Fabienne voulait intervenir et vous habitez également Marseille. Fabienne, bonjour.
Bonjour, déjà je salue Rachida parce que effectivement on a vu qu'elle et en tant qu'infirmière de réa et avoir...
Fabienne, la liaison n'est pas terrible. Donc, je vous interromps tout de suite parce qu'elle n'est pas formidable. Alors, beaucoup d'infirmières nous appellent. Céline, qui habite dans le Nord. Céline, vous avez écouté le dialogue entre Virginie et Rachida. Qu'en pensez-vous?
Oui, bonjour Pascal et bonjour à Virginie et Rachida.
Bonjour.
Je ne partage pas du tout l'avis de Virginie, mais je peux comprendre sa position. Je la respecte. Personnellement, je suis vaccinée. Depuis début mai, j'ai reçu mes deux injections. Dans mon entourage professionnel, je n'ai pas de collègues qui soient opposés à la vaccination. Je pense que malgré tout, il doit y avoir peut-être pas autant, mais en tout cas, dans la population en général, il y a des vaccino-sceptiques et donc il doit y en avoir, je pense, parmi les soignants. Je tenais quand même à rappeler que il y a quelques mois de ça, je crois que c'était au moment de la deuxième vague, on envoyait quand même les soignants travailler, même s'ils avaient un test positif. Et là, ça posait pas de problème au gouvernement. C'est juste un rappel, pas forcément bien avec le vaccin, mais je tiens quand même à le dire, parce qu'il y a quelques mois de ça, ça posait de problème à personne, alors qu'on était au plein cœur de la vague, qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Je pense que compte tenu de l'état sinistré des effectifs en EHPAD, l'hypothèse que personnellement j'émets sur le moindre taux de vaccinés dans ces services, c'est peut-être des agents qui souhaiteraient se faire vacciner, mais qui ont peut-être peur d'être en arrêt maladie par suite des effets secondaires. Et compte tenu des effectifs assez pauvres dans ces structures, peut-être ils y regardent à deux fois parce que ils ont peut-être pas envie d'être absents parce qu'ils savent très bien que ça va mettre en difficulté la prise en charge de leurs patients. Donc peut-être que c'est pas un refus, mais en tout cas une hésitation, mais à court terme, mais que ça n'engagera pas leur décision sur du plus long terme.
J'entends bien. Vous êtes vaccinée vous-même, Céline ?
Oui, j'ai depuis le début mai.
Et vous avez les deux doses ?
Les deux, oui.
Écoutez, c'est...
J'ai l'épouse d'un de mes collègues, je pense à ça là à l'instant, l'épouse d'un de mes collègues qui travaille dans un EHPAD justement, et ça a été obligatoire pour elle, et elle a été...
Obligatoire
Oui.
Mais c'est le règlement intérieur à ce moment-là.
Le règlement intérieur, ça leur a été imposé, et elle a été parmi les premières vaccinées.
Est-ce qu'un EHPAD peut obliger les soignants Est-ce que, si j'ose dire, alors après c'est un... Comment on va dire, c'est de gré à gré, forcément, ouais. Mais est-ce que juridiquement, si par exemple le soignant contestait cette réglementation de l'EHPAD, est-ce qu'il pourrait gagner ou pas? Mais en même temps, l'EHPAD ne lui ferait plus travailler ensuite, vous voyez, c'est pas facile.
C'est pas dans
sans
leur
doute.
Intérêt, puisqu'il ouais. galère déjà à retrouver du personnel. Mais effectivement, je m'étais posé la question également à ce moment-là. Après, les résidents sont censés être déjà vaccinés, donc la protection, elle est déjà assurée, je dirais, pour eux. Après, il faut peut-être juste attendre peut-être que ces soignants-là vont profiter de leur congé, justement, cet été pour se faire vacciner. Et puis, d'après ce qu'a dit Monsieur Véran, il n'y a pas non plus un gros décalage entre la population générale et les soignants. Il y a, en EHPAD, apparemment.
Bien sûr.
En EHPAD, il y a quoi? Il y a 10 points à dire entre les deux, quoi. Donc, faudrait refaire le même calcul à la rentrée. Je pense que peut-être ça pourrait s'équilibrer.
Eh bien, merci beaucoup, Céline. Et nous allons marquer une nouvelle pause et nous allons revenir pour peut-être conclure ce sujet, la vaccination obligatoire.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Ça fait réagir, évidemment. Lorsqu'on a comme ça une auditrice ou un auditeur qui a une position aussi radicale que celle de Virginie, on remarque qu'évidemment, ça enchaîne des réactions.
Des réactions sur la page Facebook de l'émission. Et nous allons continuer de vous entendre au 3210. Mais nous vous attendons aussi sur d'autres sujets. Sheila a chanté. Certains aimeraient plutôt chanter « Le masque, c'est fini ». Faut-il permettre aux enfants de le retirer en classe ?
Tirez par les cheveux votre affaire.
Bah, vous me dites ça à moi qui ai crâne rasé, c'est
tout ça pour écouter Sheila.
Oui, c'est vrai que c'était une excuse un peu bidon. C'est la demande donc de la Société française de pédiatrie dans un communiqué pour finir l'année scolaire avec le sourire. Avec d'autres associations, elles appellent au retrait du masque total pour les élèves des écoles primaires, y compris en intérieur. Et depuis hier, le port du masque n'est plus obligatoire dans la cour de récréation. Les préaux, faut-il aller plus loin ? Oui, pour Aurélie, maman d'un garçon de 7 ans, il est temps de laisser nos enfants tranquilles, de les laisser bien respirer en classe, laisser y revoir les sourires de leurs copains, copines, demande Gabriel. Il reste quelques jours d'école pour le faire. Donc, directeur d'école, professeur, parent d'élève, qu'en pensez-vous ? 3210, 3210 sur votre téléphone.
Il y avait le bac de philo hier et finalement, cette question de la vaccination obligatoire, c'est une vraie question de philo. C'est la liberté individuelle contre, d'une certaine manière, la solidarité. Bonjour Isabelle. Et c'est oui, peut-être bonjour. Avec vous, vous êtes infirmière également, c'est peut-être cela qu'on va développer avec vous. Bien sûr, il y a la liberté individuelle, mais il y a également le fait que nous participons tous collectivement à une société.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour. Bah,
écoutez, moi, je suis collègue avec Rachida, en fait. On ne se connaît pas, mais je suis aussi infirmière anesthésiste. Je n'ai pas son bagout. Hein.
Je vous rassure, personne ne l'a. Je veux dire, elle devrait faire de la radio ou de la télé, Rachida.
Oui,
elle ferait un malheur.
Tout à fait. Alors, bon, donc moi, j'avais appelé pour dire que je suis contre la vaccination obligatoire des soignants. Je pense qu'on doit garder son libre arbitre, en fait. Personnellement, moi, je ne suis pas vaccinée. J'ai fait une forme tout à fait au début de la maladie standard, quoi. Je m'en suis sortie, j'ai fait des anticorps et tout. Donc, le virus, personnellement, ne me fait pas peur. Les vaccins qui sont proposés actuellement ont été mis au point un petit peu rapidement. Je rejoins, c'est Virginie, c'est ça la première intervenante. Je rejoins un petit peu Virginie sur ce plan-là. On n'a pas fait tous les tests. Les tests à long terme, on ne sait pas. On ne sait absolument pas ce que ça va donner. Je suis pour la vaccination en général. Les gens qui sont à risque de faire des formes graves, maintenant on commence à bien connaître les personnes cibles du virus. Ces personnes-là, je ne discute pas. Il faut aller se faire vacciner. Mais j'estime que quand on n'est pas à risque de faire des formes graves, il faut attendre encore. Moi, c'est mon point de vue.
Non, mais voilà. Je vous assure, j'entends bien, mais ouais. Et vraiment, je veux pas ni vous convaincre ni vous persuader. C'est pas du tout le but. Simplement, la question qui est posée à nous tous, d'ailleurs, c'est la question de la liberté individuelle sur le fait que nous sommes ensemble dans une même équipe, sur le même bateau, où collectivement, nous devons les uns les autres des choses. Parce qu'en fait, si tout le monde est comme vous, Isabelle, la maladie, elle ne s'arrête pas.
De toute façon, enfin, personnellement, j'ai l'impression que ce virus-là, ça va être un peu comme la grippe. On ne va peut-être pas l'éradiquer tout de suite. Hein. On a éradiqué la variole, on a éradiqué d'autres maladies graves.
On va d'autant moins l'éradiquer que si on ne se vaccine pas, si vous me permettez. Parce que
il va revenir. La variole, officiellement, a été éradiquée à la surface de la Terre. Elle n'existe plus que dans des labos pour la conservation des virus. La variole, on ne vaccine plus les gens. Hein. Je sais pas, vous, on a à peu près le même âge, hein, Pascal. Donc nous, on a été vaccinés.
Je suis d'accord, Isabelle, mais prenons l'exemple de la vaccination. Prenons un cas théorique. Toutes les Français sont vaccinées au mois de septembre-octobre, au moment où l'épidémie peut revenir. Elle ne passe plus. Donc le vaccin, il est face à un mur. Ça, c'est un cas théorique.
Ça ne marche pas à tous les coups.
Mais ça ne marche pas à tous les coups. Ça marche à 95%.
Oui, à 95%.
Dans mon cas théorique, qui n'est que théorique, tout le monde est vacciné. 95%, donc ça marque. Ça, donc vous vous rendez compte, le nombre de cas, la probabilité après sur les 5% où ça ne marche pas, c'est-à-dire que ça serait peanuts, le nombre de cas. Ça serait peanuts. Donc si... tout le monde, Isabelle, raisonne comme vous. Et vraiment, je ne veux pas être dans la position de celui, je le répète, qui donne des leçons et de ça. C'est horrible. C'est tout ce que je déteste. Mais ce que je dis est purement factuel. Forcément, la maladie ne s'arrête pas. Alors que si tout le monde l'est, elle s'arrête.
Alors, pour aller plus loin, donc moi, je ne veux pas de vaccin ARN messager. Ça, je n'en veux pas. Je ne veux pas du vaccin ADN vecteur, c'est-à-dire type AstraZeneca. Le Janssen me dérange un petit peu moins parce que c'est aussi un vaccin ADN vecteur, mais dont le vecteur est un virus humain, c'est mieux qu'un virus de singe. C'est un petit peu moins choquant. Il y a Sanofi qui va nous sortir un vaccin à protéines recombinantes. C'est une technique qui marche très bien, qui a été utilisée pour d'autres types de maladies. Alors j'attends le vaccin Sanofi. C'est pour ça, je voulais aller au bout de ma démarche. Je ne suis pas contre la vaccination. Je suis la première à me faire vacciner quand je sais qu'il y a un gros risque. Donc vous voyez, je ne suis pas contre et je me ferai vacciner avec le vaccin Sanofi.
Isabelle, pardonnez-moi, et là encore, je vais prendre une précaution. C'est pas pour vous que vous faites vacciner.
Non.
Alors, il n'y a pas de risque. C'est pas pour vous. Vous n'avez pas de risque, vous, dans la maladie.
Dans mon exercice
Mais vous pouvez peut-être le transmettre, c'est ça?
Je fais extrêmement attention.
Mais oui, pas
du tout.
Isabelle, si tout le monde est comme vous, il n'y a pas de souci.
Les gestes barrières, on se lave les mains, on utilise le gel hydroalcoolique.
Donc ça ne sert à rien qu'on se fasse vacciner, en fait.
On a le masque. Pas du tout.
Si tout le monde est comme vous, si tout le monde respecte bien, si tout le monde a ce raisonnement de dire « moi je respecte bien, je fais attention », etc. En fait, c'est moi. Moi, je suis différent des autres, c'est ce que vous me dites.
Non, je ne suis pas différente des autres.
Je ne suis pas gentille, Isabelle, en vous attaquant comme ça.
Oui, je sais.
Vous avez appelé très gentiment un vendredi et puis vous
vous
dites, voilà, je me fais engueuler. Alors que, bon.
Non, pas du tout, je ne me fais pas engueuler. Puis de toute façon, je ne changerai pas d'avis. Non, je sais qu'il y a d'autres
technologies vaccinales. Ça, j'ai remarqué qu'en fait, Ça, j'ai remarqué que les gens qui veulent pas se faire vacciner, ils changeront pas d'avis. Ça, c'est un truc qui m'a bien frappé depuis 4 mois.
Je me ferai vacciner avec le vaccin à protéines recombinantes. Là, la technologie, elle est éprouvée. Elle a été testée depuis des années. J'ai reçu le vaccin contre l'hépatite B, puisque vous en avez parlé tout à l'heure avec la personne dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Ah si, bah, c'était Virginie.
C'était Virginie.
Ouais, ouais. J'ai reçu 5 doses, moi. Le vaccin anti-hépatite B, j'ai pas développé quoi que ce soit. Et le dernier, j'ai eu plusieurs marques, plusieurs laboratoires. Et le dernier, c'était la dernière dose que j'ai reçue, c'était de la protéine recombinante. Ça s'est bien passé. C'est prouvé. Il y a des millions de gens qui ont eu ça. C'était pas un problème.
Et ben, j'ai bien compris.
Le problème, c'est l'ARN messager.
J'ai bien compris. Je vous remercie grandement.
Merci Pascal. Et je dis que toutes les personnes âgées, les personnes à risque, maintenant les risques, on les connaît à peu près, les risques, les cibles du virus, on les connaît beaucoup mieux qu'à la première vague. Là, il faut pas tergiverser. Là,
j'ai
le bénéfice,
bien compris aussi.
C'est la vaccination.
Merci
et
Isabelle.
Et pour les autres, geste barrière.
Voilà, la vaccination, c'est pour les autres. Merci beaucoup, Isabelle.
Mais non, c'est pas
merci
pour les
beaucoup,
autres.
Isabelle.
Merci,
et c'était un plaisir de vous avoir. On pourra parler de La Fontaine. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de La Fontaine. Vous aimez La Fontaine, Greg?
Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.
Un
pour
mal,
rebondir sur...
Un mal qui répand
le vaccin, c'est pour les autres.
Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Etc, etc.
Monsieur Lucchini, si vous nous écoutez, soyez serein pour la suite de votre carrière.
C'est méchant.
Non, c'est sympa pour lui.
C'est méchant. Alors, si vous aimez La Fontaine, si vous avez envie de nous dire le lien que vous avez à avec La Fontaine, la fable que vous préférez, venez nous la dire. Ça, c'est bien. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Pascal, vous permettez que je vous pose une question?
Je vous en prie, Grégory.
Parce que je me mets à la place des spectateurs sur RTL.fr ou l'application RTL, parce qu'il y a des auditeurs, mais aussi des spectateurs. On est filmés, vous êtes filmés.
Que se passe-t-il?
Vous faisiez un geste étrange pendant la publicité. Vous vous grattiez la bouche, les dents avec votre main. Je ne comprenais pas.
Ah non, pas du tout. J'essaye parce qu'en fait, il y a mon stylo plume qui a coulé. Ah. Et j'ai de l'encre sur la main. Et
vous préférez vous la mettre sur les lèvres? D'accord.
Mais rien ne vous échappe, ami.
Rien.
Romaric, la vaccination, vous habitez Saint-Brieuc.
Oui, c'est ça, Pascal, bonjour.
Merci d'être avec nous et vous allez être le dernier auditeur, je pense, sur ce sujet. Est-ce qu'il faut obliger la vaccination aux soignants, selon vous?
Eh bien, je pense qu'on ne va pas y couper. Alors déjà, la vaccination en général, on voit qu'on atteint que tous les pays où la vaccination était en avance, on atteint un plateau de 65%. Et après, ça ralentit. Or, on sait très bien que l'immunité collective, avec les nouveaux variants, notamment dans la donne, est bien supérieure à ça. Il faut beaucoup plus de 65% de la population vaccinée. Et puis après, c'est un principe. J'avais un prof de philo en terminale, M. Ligaud, qui nous écoute, qui nous disait à l'époque que plus on a de liberté, moins on a de sécurité. Et on s'en rend compte tous les jours. On s'en est rendu compte pendant le confinement. Pour notre sécurité, on est obligé de se priver et d'être privé de liberté. Là, je suis tenté de dire, c'est du bon sens. C'est-à-dire que quand j'entends des gens du corps médical qui étaient en première ligne, qui ont subi pas seulement la maladie, qui ont subi aussi les conséquences indirectes de la maladie, c'est-à-dire la fatigue, la surcharge de travail, la solitude, parce qu'ils allaient au travail, ils rentraient chez eux, ils n'avaient rien à faire, donner des arguments en disant « il n'y a que les fragiles qui doivent se faire vacciner », je suis désolé, je trouve ça un peu compliqué, c'est un argument d'autorité, ça va faire du mal auprès de gens qui hésitent pour la vaccination, alors qu'au quotidien, on accepte tous de déléguer une partie de notre connaissance à des gens qui vont le savoir, qui sont des scientifiques, qui appliquent une méthode qui, jusqu'à preuve du contraire, fait voler des avions et nous permet de nous parler. Et aujourd'hui, on remet en cause ces gens juste en prenant des arguments et des exemples qui n'ont rien à voir.
Alors, vous avez écouté tout à l'heure, par exemple, Virginie,
oui,
Céline, Isabelle, qui était là.
Justement, Virginie, je ne suis pas d'accord avec elle. Quand elle parle du vaccin de l'hépatite B, de la sclérose en plaques, ça n'a même pas été remis en cause, le lien. C'est que ça a été prouvé qu'il n'y avait pas de lien.
Mais bien sûr, c'est ce que je lui ai dit. Et je me suis permis d'apporter, effectivement, cette contradiction.
Vous avez raison. Et concernant...
Oui, mais malgré tout, elle le pense. C'est ça qui est intéressant. Et quand je dis elle le pense, elle en est persuadée. Et elle peut même imaginer, Virginie, qu'on travestit la réalité.
Oui, mais non. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un... alors, après, ce qui est compliqué, Pascal, que vous l'avez dit vous-même et vous le dites quasiment tous les jours, c'est compliqué quand c'est une question... Quand quelqu'un a un schéma de pensée et pense à quelque chose et a quelque chose en tête, ça va être très compliqué de le convaincre. Et on n'y arrivera pas. Pourquoi ? Parce que elle est rentrée dans son schéma et elle va voir uniquement les choses qui confirment son hypothèse de départ. Et elle va faire un biais de confirmation.
Et malheureusement, je crains que vous n'ayez un peu raison, Romaric.
Oui, et c'est pour ça que je pense que même si ça va être contre-productif dans l'opinion, dans l'opinion publique, on va être obligé de rendre cette vaccination obligatoire et peut-être pas qu'aux soignants, parce qu'aujourd'hui, si on le rend obligatoire, il va forcément avoir des contestations, ça va poser question et ça va venir... amener du moulin à l'eau de tous les gens qui disent qu'on nous cache quelque chose, regardez, on est obligé de le rendre obligatoire, mais entre guillemets, je suis en train de dire, on fait des prophéties autoréalisatrices, puisque votre dernière intervenante qui est contre la vaccination, à un moment, elle a quand même expliqué que, oui, elle a eu une forme pas grave, etc., mais elle prend son cas. Or, aujourd'hui, il faut prendre de la hauteur, il faut analyser sur l'ensemble de la population et en dehors du pays même. Aujourd'hui, il faut une immunité collective énorme. Il faut pouvoir vaincre ce virus. Et quand elle dit « je pense que ce virus reviendra », bah oui, c'est sûr, si beaucoup de gens pensent comme elle et qu'on a 40% ou 30% de la population qui n'est pas vaccinée, on continuera à avoir des variants, le virus reviendra comme une grippe et ça va s'auto-réaliser. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est la vaccination. On a des scientifiques qui ont fait un travail formidable et même s'ils l'ont fait rapidement, on peut aller, c'est disponible sur Google Scholar et sur les autres, lire les études plutôt que de supposer... Parce qu'on a entendu dire qu'on a lu une publication Facebook, ce que vous faites vous en tant que journaliste, de remonter à la source, d'aller lire les publications et de se dire, ce vaccin, oui, il y a des effets secondaires, oui, ça peut aller de la courbature à des effets secondaires beaucoup plus graves, et il ne faut pas le nier. Il y a eu des thromboses, oui, c'est vrai, mais pas plus de décès que dans le cas d'autres vaccins, ou pas plus de douleurs que dans le cas de nos militaires, par exemple, qui sont vaccinés contre la fièvre jaune, et tout ce qui s'ensuit. Donc, malheureusement, le rendre le vaccin obligatoire, je pense qu'on n'y coupera pas, que ce soit dans certaines professions ou en général dans les populations. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est quand des gens qui se présentent du corps médical, infirmiers ou autres, donnent des arguments à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.
Eh ben merci Romaric de cette démonstration qui était très convaincante. Merci beaucoup et bonne journée du côté de Saint-Brieuc, au cœur de la Bretagne. Il est 13h50, la pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous êtes très nombreux à vouloir réagir sur cette question que nous posions aujourd'hui. Faut-il obliger les soignants à se faire vacciner ? C'est vrai que les appels continuent de venir. Alors cette fois-ci, Marie, ce sera vraiment la dernière fois, le dernier appel ce soir. Bonjour Marie.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes soignante également ?
Tout à fait. Je suis diplômée de 82, donc je vous laisse calculer. 39 ans.
Et vous voulez réagir ? Vous avez sans doute écouté depuis le début de l'émission les uns et les autres. Quelle est votre position ?
Ah ben, écoutez, pour moi, c'est évident que les infirmiers, tous les soignants, médecins, tous ceux qui sont en contact avec les patients devraient se faire vacciner. C'est dommage si on en arrive à une obligation, parce que pour ma part, je pense que ça va du bon sens de soignant. N'oublions pas que la tuberculose a été éradiquée. Nos arrière-grands-parents ont côtoyé. La rougeole tue encore dans des pays sous-développés, mais nous avons eu la chance, nous, de pouvoir nous faire vacciner nos enfants, et que sans les vaccins, on ne peut rien contre certaines pathologies. Alors, les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, je le comprends. Je voudrais qu'on m'explique. On est en service de soins. On a une personne qui est immunodéprimée, qui a une maladie grave. Nous, on est soignants. On est porteur de la maladie. On ne le sait pas. On va contaminer cette personne. Est-ce que je peux continuer tous les jours d'exercer sans me sentir coupable?
C'est une question qui est posée depuis 13 heures.
Oui, mais justement, j'ai démarré mes études, la vaccination contre l'hépatite était obligatoire. Je voulais faire ce métier, donc je l'ai fait. Je suis partie avec Médecins Sans Frontières en Afrique. Il fallait faire la fièvre jaune, il fallait faire l'ariage, je l'ai fait. Si je voulais pas le faire, je ne partais pas. Donc, quelque part, je ne comprends pas cette réticence. Bien sûr, on ne connaît pas tout. Et moi, je fais juste confiance. C'est tout. Parce qu'on n'a pas toute l'information. Même moi, en tant que soignante, je n'oserais pas dire que je détiens toutes les connaissances pour pouvoir juger du bienfait ou pas. On est dans une dimension où c'est bénéfice-risque. Et pour moi, ça va du bon sens. Vaccinons-nous.
Merci Marie, c'était pas mal de conclure avec vous et de cette manière-là, parce que c'était une bonne synthèse de tous les témoignages que nous avons pu entendre. Merci vraiment beaucoup Marie, dans les Alpes-Maritimes.
Merci Pascal.
C'était un plaisir de vous écouter, merci.
Merci beaucoup Pascal.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Faut-il arrêter le masque à l'école? Et ça, c'est une recommandation de la pédiatrie française. Nous sommes avec Francis. Bonjour Francis, vous êtes enseignant. Faut-il permettre aux enfants de retirer leur masque en classe?
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs. Préalablement, l'auditrice juste avant, c'était un peu l'histoire de... Elle me faisait penser à l'histoire de la chauve-souris de Bigard, quoi. Si je suis au contact d'une personne qui, si elle est immunodéprimée, qui, si j'ai le virus, qui, si j'arrive malgré le masque, malgré le gel, à lui transmettre, qui, si... Et voilà, c'était un peu ça l'histoire, mais enfin bon. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le masque.
Le masque, vous l'avez teasé, vous serez après le flash, cher Francis, parce qu'il est déjà 13h58. Donc, si on veut écouter Hortense Crépin, et on vous retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il est 14h.
Le flash avec Hortense Crépin.
Cédric Jubilard présentait un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen pour le meurtre de sa femme Delphine. L'infirmière de 33 ans a disparu dans le Tarn en décembre. La garde à vue de la mère et du beau-père de Cédric Jubilard a été levée ce matin. Ils ont été remis en liberté. Le procureur de la République de Toulouse doit s'exprimer à 16h. Nordlandais sera lui jugé du 31 janvier au 11 février 2021 devant les assises de l'Isère pour le meurtre de Maëlys il y a 4 ans. C'est la cour d'appel de Grenoble qui a dévoilé le calendrier. En mai, l'ancien maître chien a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Arthur Noyer. Le chiffre a doublé en 10 ans, celui des personnes fuyant leur pays à cause des guerres et des persécutions. 82 millions de déplacés en 2020, d'après un rapport annuel de l'ONU. C'est la 9e année de hausse continue des déplacements forcés dans le monde. À Moscou, la ville enregistre un nombre record de nouveaux cas de Covid, plus de 9000 ces dernières 24 heures. Conséquence, plus de fan zone dans la ville pour l'Euro de foot. L'Euro, justement, et trois rencontres au programme aujourd'hui. Dans une heure, coup d'envoi de Suède-Slovaquie, puis Croatie-République tchèque, ce sera à 18h. Et l'affiche ce soir, c'est le match 100% britannique entre l'Angleterre et l'Écosse, coup d'envoi à 21h. Enfin, en rugby, la demi-finale du top 14 entre La Rochelle et le Racing 92, c'est à 20h45 à Lille. Rendez-vous dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Le temps, c'est orageux sur les régions du nord et du nord-ouest avec des passages nuageux et des averses. Les températures, 27 degrés à Paris et Bordeaux, 28 à Lille et Marseille, 31 à Strasbourg. Les courses, c'est à Vincennes en nocturne. Départ à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 4, l'As, le 7, le 12, le 10, le 9. La dernière minute, c'est l'As, Elena Di Quattro. 14h et presque 2 minutes sur RTL. Et le retour des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci beaucoup Hortense. Nous étions avec Francis il y a un instant. Nous le retrouvons.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Francis, qui est donc enseignant, quel âge ont vos élèves, Francis ?
Ben moi, je suis dans le supérieur, donc ils sont dans 21, 22.
Donc, effectivement. La question, faut-il permettre aux enfants de retirer leur masque en classe ? C'est la demande notamment de la Société française de pédiatrie dans un communiqué pour finir l'année scolaire avec le sourire. Ce serait pour quelques jours. Hein. Avec d'autres associations, elles appellent au retrait du masque total pour les élèves des écoles primaires, y compris en intérieur. Voilà une initiative que je peux trouver intéressante pour les écoles primaires. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense pas que ce soit simplement psychologique. Effectivement, si on peut terminer l'année avec le sourire, ce sera pas mal. Mais je pense que surtout, ils ont quelques études qui commencent à pointer le bout de leur nez et qui montrent que il y a plus d'inconvénients que d'avantages à obliger des enfants, et pas seulement des enfants d'ailleurs, à porter le masque alors qu'ils ne sont pas touchés par la maladie. Donc, on peut imaginer dans la logique actuelle que la population adulte se fera massivement vacciner, même si pour l'instant je n'en fais pas partie. Mais on peut imaginer que les enfants ne pourront plus contaminer, s'ils sont contaminants, ne pourront plus contaminer les adultes, puisque les adultes seront vaccinés, donc ne risqueront plus grand-chose, a priori, d'après les messages publicitaires de Pfizer.
Non, mais effectivement, avec les enfants école primaire moins de 10 ans, je pense qu'on est dans la surprotection.
Mais oui, mais imaginez que des enfants ont vu la moitié du visage de leurs enseignants, de leurs maîtresses, des aides dans les classes, de leurs copains, sauf ceux de leur quartier qui retrouvent sans masque. Pour des anniversaires, pour des goûters, pour des dessins animés, pour je sais pas quoi. Et donc, ça doit être très très compliqué de comprendre quand vous avez 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, de comprendre ce qui est en train de se passer, quoi. C'est un truc de fou. D'autant que, je le répète, la mortalité pour les moins de 65 ans, 65, je parle pas simplement parce que plus on descend et plus elle diminue. L'an dernier, l'étude du professeur Toubiana montre qu'en 2020, les moins de 65 ans sont moins morts en 2019, 2018 et 2017, et que plus on descend en âge, moins ils sont morts de manière exponentielle. Donc en fait, les enfants n'étaient pas touchés. On parle aujourd'hui de vacciner les plus de 12 ans. C'est un truc de malade. À un moment donné, il faut quand même qu'on se pose, qu'on arrête de discuter en fonction d'intérêts financiers, d'intérêts politiques. Les élections arrivent.
C'est pas des intérêts financiers, c'est simplement de la surprotection, du principe de précaution.
Oui, enfin, les quelques milliards que les grands laboratoires vont encaisser en dividendes à la fin de l'année. C'est pas.
Moi, je veux pas rentrer là-dedans parce que j'imagine pas que c'est ce qui pèse. Je suis peut-être naïf, mais je pense pas que c'est ce qui pèse. Non, mais il y a peut-être une naïveté de ma part. Moi, j'ai pas de tempérament complotiste paranoïaque. De la même manière, certains disent aujourd'hui, on maintient le masque parce qu'il y a un business autour du masque. Donc, moi, je rentre pas là-dedans, évidemment. Je n'y crois pas une seconde.
Quand on n'avait pas de masque, on nous expliquait que ça ne servait à rien. Mais on a lancé des productions. Moi, je suis dans l'Est de la France. On a fait investir dans des entreprises textiles des Vosges des sommes importantes pour pouvoir produire des masques. Puis après, on a dit, attention, le masque textile, c'est pas terrible, terrible, terrible. Et puis, on a continué à approvisionner. La grande distribution a approvisionné et les réseaux de pharmaciens comme des malades, des masques. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces masques-là ? On les jette ou on les utilise chaque jour qui passe.
On va poser la question à Robert Cohen dans une seconde, puisqu'il est médecin. Et je le salue déjà, on va l'entendre après la pause. Monsieur Cohen, bonjour, vous êtes avec nous ?
Bonjour, je suis avec vous, vous m'entendez bien ?
On vous entend bien et on va même vous écouter, puisque vous êtes pédiatre et vous allez nous dire votre sentiment, puisque c'est la Société française de pédiatrie, je ne sais pas si vous y appartenez ou pas.
Oui, j'y appartiens.
Eh bien, forcément, vous serez pour que les enfants retirent leur masque en classe. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Robert Cohen, que je salue à nouveau et merci vraiment d'être avec nous. Pourquoi faut-il, selon vous, permettre aux enfants de retirer leur masque en classe ? Et je parle des enfants primaires.
Exactement, parce que depuis le départ, on sait qu'ils sont moins contaminés que les autres et moins contaminants. On a accepté le port du masque entre 6 et 11 ans, au moment du début de la deuxième vague épidémique où l'incidence de la maladie était tellement élevée que même s'ils avaient un risque plus faible, eh ben, on a dit « Ok, on accepte qu'ils portent le masque ». Maintenant, vous avez vu, tous les paramètres sont au vert, l'incidence est tombée en dessous de 50 sur 100 000 presque partout en France, pour ne pas dire partout. Il y a moins de 5 000 cas par jour en France. Donc, il est temps de leur enlever le masque. Alors, on nous le dira, mais il reste que 10 jours d'école, 15 jours d'école. Mais il faut commencer comme ça pour ne pas reprendre la septembre de la même façon, parce qu'on a toutes les raisons de penser qu'en tout cas, en début septembre, on n'aura pas une incidence extrêmement élevée, et que tant qu'à prendre cette décision, autant qu'on la prenne maintenant, que la rentrée scolaire se fasse sans masque, sauf si l'incidence remonte. Bien sûr, ça ne change malheureusement rien pour les plus grands, parce qu'on sait qu'ils sont proches des adultes, et en intérieur, eh ben, ils vont porter des masques comme les adultes, par contre, en extérieur, pas de masque pour tout le monde.
On a une discussion sur les vaccins tout à l'heure, et on voit bien la réticence encore de certains, et notamment des soignants, et l'argument massu auquel on ne peut pas répondre, c'est de dire il n'y a pas de recul. Par définition, il n'y a pas de recul. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et j'ai répondu plusieurs fois sur là, on ne fait aucun protocole, on ne lance jamais un médicament, on ne fait plus rien. Quoi. Mais la médecine, par définition, n'a pas de recul.
Et on laisse l'épidémie courir.
Bah oui, mais alors quel est votre sentiment et quand ça touche des soignants, puisque vous devez rencontrer au quotidien ce type de personnes, qu'est-ce que vous vous dites ?
Alors, dans soignants, il faut distinguer plusieurs choses. Quand on regarde, par exemple, les chiffres de couverture pour les médecins libéraux ou pour les médecins dans les hôpitaux, ils ont adhéré largement à la vaccination, puisque on se retrouve, selon les hôpitaux, entre 75 et 85% de couverture vaccinale. Et pour les 15% restants, il y a quelques-uns qui ont probablement fait la maladie ou qui ont présenté les quelques contre-indications qui rendent le vaccin inefficace. Ça dépend effectivement du personnel soignant dont on parle. Je pense que pour les autres, depuis des années, on trône en France une ambiance anti-vaccinale, une méfiance vis-à-vis des vaccins, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que ce qu'a dit le ministre, je pense hier ou aujourd'hui, disant que peut-être qu'il va falloir rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, me paraît une très bonne chose, parce que vous savez, est-ce que vous accepterez de vous faire opérer par un chirurgien qui ne porte pas de masque ? La réponse est non. Est-ce que vous accepterez de vous faire soigner par un médecin qui ne se lave pas les mains ? La réponse est non. Moi, je n'ai pas le droit de vous contaminer à la maladie. Donc, même si moi, j'ai un doute pour moi-même, ça fait... Et moi, je n'en ai pas personnellement, Pascal. Hein. Mmh. Mais même si j'ai un doute pour moi-même, je me dois à mes malades de les protéger. Ce n'est pas parce que le masque m'est désagréable que je ne vais pas porter de masque. Donc, je pense que l'obligation, et je pense que dans ce cadre-là uniquement, de professionnels qui sont obligés de travailler au contact avec des gens éventuellement fragiles, l'obligation vaccinale a du sens. Elle existe déjà pour plusieurs vaccins.
Bah merci beaucoup Robert Cohen, merci d'avoir apporté ces précisions, et on va poursuivre ce sujet sur le masque, et on va être avec un directeur d'école primaire à Issy-les-Moulineaux. Bonjour Christophe.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Quelle est la décision du directeur d'école primaire que vous êtes pour les masques, si vous aviez évidemment la possibilité de trancher?
Alors, déjà en préambule, Pascal, j'aurais vous dire que le directeur d'école que je suis vous adore.
Ben, c'est gentil.
Je trouve que vous devriez passer 24 heures sur 24 à la télé et à la radio.
Bon
voilà, c'est fait.
C'est très gentil à vous, mais c'est pas le débat.
C'est pas le débat, mince. Alors, il faudra que ce soit le débat un jour. Mmh. Écoutez, déjà, les collègues et les enfants ont accueilli la nouvelle du retrait du masque en récréation avec un immense bonheur, si vous saviez. Mmh. Et même les parents d'élèves qui arrivent à l'entrée de l'école sans masque, on retrouve leur sourire, et je peux vous dire que ça apporte énormément de joie de vivre. En revanche, le directeur d'école que je suis et qui vient de subir, entre guillemets, des tests de dépistage salivaire, invite à la prudence. Il ne reste plus, Pascal, que 10 jours de classe avant les vacances d'été. Nous sommes, malgré tout, je trouve, dans un flou artistique total. N'est-il pas plus prudent, de rester à l'intérieur des classes avec un masque, sachant que maintenant on peut vivre en récréation en toute liberté, pour s'assurer que la fin d'année scolaire se passe le mieux possible et que nous puissions partir en vacances.
Mais oui, mais c'est le principe de précaution poussé jusqu'à l'extrême. Vous venez d'entendre M. Cohen. C'est ce qui est étonnant dans ces positions, c'est qu'on a l'impression que les arguments des deux côtés ne passent jamais, quoi. C'est-à-dire que vous avez un médecin qui vous dit le taux d'incidence est au plus bas, les enfants ne transmettent pas, les enfants ne sont pas porteurs, les enfants... Bon. Et malgré tout, au nom d'un principe de précaution, vous dites « Ah oui, mais quand même, il faut mieux être prudent, il ne reste que 10 jours. »
Alors, Pascal, vous allez comprendre.
Vous allez moins m'adorer.
Oui, mais non, mais je vous adore malgré tout. Ce que les médias oublient, c'est que quand on parle des écoles, on parle des enfants de 3 à 11 ans, bon d'accord, mais dans une école comme la mienne à Issy-les-Moulineaux, il y a 50 adultes. Ils ne sont pas tous vaccinés. Qui me dit qu'il n'y a pas des enfants asymptomatiques ? Donc, plutôt que d'avoir le risque d'une classe fermée d'ici une semaine ou d'avoir une situation improbable d'ici le 6 juillet, pourquoi ne pas rester prudent puisque ça fait 6 mois qu'on endure l'insupportable ? Moi, je trouve que le
couvre-feu... C'était un symbole et c'était ce que disait M. Cohen.
Mais oui, et je respecte tout à fait les propos de M. Cohen.
Et vous êtes directeur d'école qui a peur ?
Non, alors je n'ai pas peur, c'est-à-dire que pour avoir vécu une année scolaire extrêmement compliquée, très sincèrement Pascal, je peux vous dire que quand vous êtes directeur d'école,
ça, j'imagine.
Un parent vous annonce que l'enfant est Covid+, et que vous devez annoncer aux parents au pied levé qu'il n'y a pas classe pendant une semaine, je peux vous dire que c'est un stress vraiment insupportable, car vous devez gérer tout seul une situation que beaucoup de gens supportent mal. Je pense simplement que si vous voulez, il ne reste plus que 10 jours de classe.
J'ai bien compris l'argument.
Vous voyez, à quoi bon prendre un risque alors que si vous voulez tout se passe bien...
Non mais le risque c'est la vie, mais j'entends ce que vous dites.
Et Pascal, les enfants sont déjà, mais je peux vous dire, et plein de parents vont comprendre ce que je vais vous dire, les enfants sont ravis de pouvoir enfin jouer en récréation sans masque, mais c'est déjà énorme. Quelle bonne nouvelle.
Merci Christophe. Vous apprenez les fables de la Fontaine en primaire
Ah mais je les connais par cœur. Voulez-vous que nous fassions un concours une prochaine fois?
Ah ben non, mais par exemple, qu'est-ce qu'on apprend? Moi j'ai l'impression qu'on apprenait la cigale et la fourmi parce que c'était une des plus faciles à comprendre.
Bien sûr, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Vous connaissez la suite, Pascal?
Pas un petit morceau de vermisseau, je crois, de mémoire, c'est ça, non?
De mouche ou de vermisseau?
De mouche ou de vermisseau. Alors, elle a crié famine chez sa copine, la voisine. Chez la fourmi, pas sa copine.
Eh bien écoutez, Pascal, oui. Le directeur d'école que je suis, vous met 20 sur 20.
Ah bah vous êtes gentil, ça n'a pas été souvent.
Je vous veux non-stop service.
Oui, bien sûr, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Merci Christophe, merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas souvent eu 20 sur 20 à l'école. Tout à l'heure, je n'ai pas fini les animaux malades de la peste que vous avez reconnus.
On était à la page 2, donc en effet.
La peste hein
donc, vous voulez finir pendant la pause?
Non, je vous donne simplement la morale de... vous la connaissez, la morale des animaux malades de la peste?
Non.
Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et c'est ça qui est formidable, c'est que La Fontaine, ça a 4 siècles. Et c'est passé dans le langage courant. Vous connaissiez évidemment cette formule.
Bien sûr.
Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est une vérité, c'est un axiome de nos sociétés. Et haro sur le baudet, vous connaissez ça, cette expression aussi. On cria, c'est dans la fable également. On cria haro sur le baudet. Le baudet, c'est un âne. B-A-U-D-E-T, un âne. C'est un autre nom, le baudet du Poitou, par exemple. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est la fête de la musique lundi. Et en avant-première de cette fête de la musique qui aura lieu lundi 21 juin, jour du solstice d'été, jour anniversaire également de la naissance de Michel Platini ou de Françoise Sagan. C'est bien de naître à 21 juin.
C'est fou.
Cette musique que nous relançons chaque année au moment de l'été.
Cette émission, c'est un peu la fête de la musique toute l'année, de toute façon.
C'est un peu la fête de la musique, effectivement. Pas que, mais Jean-François Maurice.
Tu fermes un peu les
28 degrés à l'ombre. Nous l'écoutons régulièrement. René, vous serez notre dernier auditeur pour rendre hommage peut-être au général de Gaulle et puis peut-être vous rendre hommage à vous également, René.
Allô, je vous entends.
À moi, certainement pas. Au général de Gaulle et à ses compagnons, certainement oui. Car j'ai eu le privilège, à 9 ans et demi, d'entendre en direct l'appel du 18 juin 1940. C'était à la Martinique. Il était midi et demi, compte tenu du décalage horaire, puisque l'appel a eu lieu à Londres vers 18h30, et nous, il était midi et demi.
Et vous vous souvenez avec qui vous l'avez écouté ?
Je l'ai écouté, j'étais avec ma mère. Mon père n'était pas encore revenu du bureau, il était trésorier payeur général, il n'était pas encore remonté de la ville, et nous avons écouté la BBC dans des conditions un peu difficiles, il y avait pas mal de brouillage, mais très curieusement, on nous a annoncé un général français, et les mots nous parvenaient très distinctement, mais avec un écho qui faisait en sorte que les mots étaient répétés deux fois. Et alors, j'étais tout jeune, j'imaginais ce général, là je me suis bien trompé, petit avec des cheveux blancs. En réalité, là, il était assez différent. Et depuis ce jour-là, je suis entré en gaullisme pour toute ma vie, et aujourd'hui encore, le 18 juin, reste pour moi une date clé de l'année.
Bah merci beaucoup René. Et là, je ne peux pas prolonger, et vraiment je le regrette beaucoup, cette conversation, parce que l'ami Laurent Tessier est là pour le débrief, et il est déjà 14h23, et nous n'aimons pas rendre en retard pour Flavie Flamand. Mais est-ce que c'est possible de lundi de vous avoir de nouveau au téléphone, René ?
Je serais toujours ravi de vous entendre, et pour le sujet, et c'est surtout de vous écouter, vous, en direct, puisque vous êtes à la maison tous les jours, matin, midi et soir.
Bah écoutez René, on vous appelle lundi, c'est promis. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est la question du jour et le sujet qui vous a fait réagir au 32-10. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ? C'est non pour Virginie, infirmière libérale.
À long terme, on ne fait rien. Le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où les personnes âgées sont vaccinées, ou les personnes fragiles sont vaccinées, je ne vois pas pourquoi il faudrait obliger les autres à se faire vacciner. Bon,
Virginie, si en tout cas c'était obligatoire, qu'est-ce que vous feriez, vous ?
Je change de métier.
Des propos qui ont fait bondir Rachida, infirmière anesthésiste en région parisienne.
Moi, je suis pour que tous les soignants se fassent vacciner. Parce que quand on choisit cette profession, dès le départ, on sait que c'est une profession où il y a plein de vaccins qu'on doit faire. Si les gens ne veulent pas se faire vacciner, eh ben, tant pis pour eux, eh ben, ils vont ailleurs, ils changent de métier.
Et là, forcément, une battle s'engage entre nos deux auditrices. Virginie réagit de nouveau et répond à Rachida.
Je vois pas pourquoi je ne serais pas maîtresse de mon corps, puisque mon corps m'appartient encore, et depuis ma naissance et jusqu'à ma mort.
Rachida garde son cap et continue d'essayer de convaincre Virginie.
Il faut qu'on se fasse vacciner, Virginie, vraiment. Virginie, il faut pas que ça recommence, il faut qu'on se fasse vacciner pour soigner correctement les gens et ne pas contaminer les autres.
Un échange qui aura duré plus de 20 minutes.
Il n'y a plus que les auditeurs qui ont la parole et c'est bien finalement.
Oui, c'est un concept. Et aujourd'hui, notre réalisateur Greg Caranoni est joueur et n'hésite pas à vous casser, Pascal.
Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste ! Puisqu'il faut l'appeler par son nom.
Monsieur Lucchini, si vous nous écoutez, soyez serein pour la suite de votre carrière.
Alors celle-là, vous ne vous y attendiez pas. Hein.
C'est méchant.
Eh oui. Non, c'est sympa pour lui.
Allez, une autre punchline, Greg Caranoni, faites-nous rêver.
Il y a mon stylo plume qui a coulé et j'ai de l'encre sur la main. Et
vous préférez vous la mettre sur les lèvres. D'accord.
Mais rien ne vous échappe, ami.
Et peut-être que notre réalisateur s'est transformé aujourd'hui en Superman. Ah oui, parce que vous n'avez pas été tendre avec nous cette semaine, Pascal. Je suis très peiné.
Des pâtes.
Non, Greg Caranoni, je ne parle pas des pâtes, des peinés. Je sais bien que c'est encore l'heure de déjeuner. Non, je suis peiné. Triste musique qui fait pleurer, s'il vous plaît. Oui, Pascal, vous avez été très dur avec plusieurs d'entre nous.
Malheureusement, et l'ami Laurent Tessier est là pour le débrief.
Ouais, Flavie Flamand a aussi subi le même sort.
Comme on est à la fin de l'émission et que malheureusement, Flavie Flamand va prendre l'antenne.
Ouais, sauf que Flavie ne s'est pas laissé faire.
Oui. Vous êtes tellement heureux de me voir, vous avez dit malheureusement Flavie Flamand va
mais
débarquer.
Non,
si,
vous si, j'ai pas bien compris. C'était une phrase qu'il fallait replacer bon, dans son contexte.
Et là.
Mais allez-y, Pascal, faites ce que vous voulez dans cette émission. Tiens, chantez en solo.
Être un artiste.
À faire plus rire les putains de la rade.
J'aurais voulu être un chanteur.
Une autre démonstration, Pascal.
Monsieur Caranoni ne veut plus.
Ah,
il dit
si,
que
si,
je cache les morceaux de musique quand je pose ma voix dessus.
Et ben non, vraiment, je ne vois pas pourquoi Greg Caradoni nous fait ce petit de reproche. Allez, dimanche, c'est la fin du couvre-feu. En attendant, la réouverture aussi des boîtes de nuit. Remettons-nous dans cette formidable ambiance.
La dernière fois que je suis allé en discothèque, Pompidou était président de la République, cher ami.
Ah, Pascal vient de s'installer sur la banquette Léopard, prêt à bouger son corps.
J'ai une articulation un peu molle.
Non, ne vous inquiétez pas, Flavie valide votre déhanché.
Vous avez déjà fait des régimes, vous ? Parce que vous êtes plutôt svelte, vous avez un corps fait pour la danse.
Tous les corps sont faits pour la danse.
Pour
la danse.
Ouais, et d'ailleurs, dites-lui de venir vous rejoindre sur la piste, car...
On ne laisse pas Pépé dans un coin.
Mais oui, motivez-la à danser avec vous.
J'ai oublié tout mon allemand. Alors écoutez, vraiment, je ne peux rien faire pour vous.
Ah mais là, on n'a rien compris. Greg Carnoni danse alors avec vous sur des musiques endiablées.
Moi, ma playlist s'est arrêtée en 78, je vous l'ai déjà dit.
Ah bah attendez, on vous met dans l'ambiance. Qu'est-ce qu'on écoutait en 1978 ? Ah. It's fun to stay at the YMCA. Ou encore un autre tube. Et puis, il y avait aussi...
Le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs.
Mais surtout la fièvre du samedi soir. Et là, je peux vous dire que Pascal dans le studio est en mode. C'est bientôt l'heure d'en effet pour s'entendre. Flavie vient d'arriver.
Sa blondeur va illuminer ce studio. Elle fait quelques pas dans le studio, telle une mannequin sur les podiums.
Et comme chaque vendredi, on est à la bourre.
Être en retard, c'est un défaut.
Bon, nous vous laissons le studio, Flavie.
À plus tard, Amis.
Et oui, un dernier mot, Christophe, ce débrief.
Directeur d'école que je suis vous met 20 sur 20.
Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec forcément une chanson de 1978.
C'était magnifique. La pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.